Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est mardi que le film aux 4 Oscars, Le discours d'un roi, sort en DVD et Blu-ray. L'occasion pour Franck Ferrand de revenir sur la personnalité timide et méconnue du roi George VI sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. George VI était le père, vous savez, de l'actuelle souveraine Elisabeth II. Or, sa mémoire était presque oubliée jusqu'à la sortie de ce beau film de Tom Hooper, où le rôle du roi est interprété par Colin Firth. Le film est d'abord l'histoire d'une amitié mise au service d'un combat personnel, mais c'est aussi une plongée dans une époque et dans un milieu tout à fait passionnant.
Et dans la deuxième partie de l'émission, vous recevrez Bruno Kras, le monsieur cinéma d'Europe 1, ainsi que deux historiens spécialistes de la Grande-Bretagne et de sa monarchie.
Oui, une monarchie britannique qui n'en finit pas de faire rêver le monde entier. Le récent mariage princier l'a prouvé.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Décembre 1895, cela fait 34 ans que la vieille reine Victoria, impératrice des Indes, porte le deuil. On ne la voit jamais qu'habillée en noir, disparaissant sous des coiffes de dentelle censées manifester au monde entier l'inconsolable chagrin où l'a plongée, le 14 décembre 1861, la mort de son cher époux, le prince Albert de Saxe-Cobourg. Or voilà que, justement, le jour anniversaire de cette disparition tragique, le 14 décembre donc, un télégramme de son petit-fils, le prince George, duc d'York, lui annonce, oh, sur la pointe des pieds, très prudemment, lui annonce un heureux événement, la naissance du deuxième garçon de George et Mary. Victoria note dans son journal ce soir-là: j'ai reçu le télégramme de Georgie. Son premier sentiment a été de regretter que le cher enfant soit né un si triste jour. J'ai, moi, celui qu'il est possible que ce soit une bénédiction pour le cher petit garçon et que, peut-être, on peut regarder cela comme un cadeau de Dieu. Eh bien, finalement, Victoria est bien disposée. Évidemment, on prénomme le bébé Albert. Pour ses proches, désormais, il sera Bertie. La première année de Bertie dans ce monde est en vérité très difficile. Sa nurse, Mrs. Green, qui aime passionnément son frère aîné David, et considère en quelque sorte cet enfant comme une charge inutile. Elle le sous-alimente, elle ne lui donne aucune affection. Or, de son côté, sa mère, la princesse Mary, n'est pas du tout maternelle. Elle ne remarque pas que cette femme est particulièrement négative à l'égard de son enfant. Sa survie, Bertie ne la devra qu'au dévouement inespéré d'une autre nurse, la nurse en second, si vous voulez, Lala. C'est elle qui va oser braver tous les interdits de l'Angleterre victorienne pour aller dénoncer la folie de Mrs. Green. On peut dire qu'il était temps parce que, vraiment, la méchante fée était allée assez loin dans les mauvais traitements qu'elle infligeait au deuxième fils de George et Mary. Cette méchante fée est immédiatement priée de faire ses bagages et désormais, c'est Lala qui, avec le concours du valet Finch, veillera sur l'enfance des petits princes David et Bertie. La princesse Mary de Teck, duchesse d'York, a épousé le prince George en 1893. Il faut savoir qu'elle avait d'abord été fiancée à son frère aîné, qui est mort prématurément. Elle forme avec le duc d'York un couple dont on peut dire qu'il est un bon couple, c'est un couple aimant, mais je vous l'ai dit, elle n'a aucune fibre maternelle. Quand ses enfants sont malades, elle ne se déplace même pas jusqu'à la nurserie pour les voir. Elle craint la contagion. Le couple princier vit dans un cottage appelé York's House à Sandringham, au nord de Londres. C'est tout près du château où résident les parents de George, le prince de Galles, Édouard, et son épouse Alexandra. Et l'on peut dire que dans cette maison, la vie est relativement harmonieuse. Un petit frère naîtra bientôt, Harry Orr. En janvier 1901, c'est la reine Victoria qui vient à mourir. Le prince Édouard devient roi sous le nom d'Édouard VII. Quant à Georges, c'est-à-dire le père du petit Bertie, c'est lui qui désormais est prince de Galles, c'est-à-dire l'héritier du trône. George et Mary vont bientôt entreprendre un long périple autour du monde pour se faire connaître de tous les sujets britanniques. Ils laissent leurs enfants aux soins de leurs grands-parents, le nouveau roi et la nouvelle reine. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour David et Bertie, car en vérité, Édouard et Alexandra sont des grands-parents gâteaux. La première institutrice de Bertie, Miss Bricka, est une Alsacienne. Elle initie ses jeunes élèves royaux ou princiers aux joies du français et de l'allemand. Mais le grand-père et la grand-mère, en fait, sont là plutôt pour adoucir le régime des études. David le racontera plus tard dans ses mémoires. « Quand mes grands-parents n'avaient pas d'invités à déjeuner, écrit-il, ils aimaient nous voir jouer bruyamment dans la salle à manger. Il nous était facile, dans cette atmosphère familiale, d'oublier que Miss Bricka nous attendait là-haut avec ses manuels de français et d'allemand. Si nous nous faisions attendre trop longtemps, elle venait timidement nous prévenir. La plupart du temps, ma grand-mère lui faisait signe de sortir. Quant à mon grand-père, tirant sur son cigare, il ajoutait d'un ton rassurant « C'est bien, laissez-nous les enfants encore un peu ». Mais ces vacances ne durent évidemment pas toujours. George et Mary finissent par rentrer de voyage et la vie des petits princes reprend son cours assez maussade. David et Bertie quittent la nurserie, ils sont confiés à Finch seul et à un précepteur, Mr. Hansel. Les deux enfants n'ont du reste pas réagi de la même manière à ce régime un peu sévère d'études, de vie très, très routinière. David, de son côté, qui s'est toujours senti aimé, même par la terrible Mrs. Green, David est d'un naturel enjoué, décontracté, tandis que Bertie reste introverti, maladivement timide. Il bégaye en public, il lui arrive même de piquer des colères noires. Le malheureux Bertie est gaucher, eh bien, on l'oblige à écrire de la main droite. Il bégaye, on se moque de lui. Ses jambes sont un peu déformées, on l'équipe d'une paire d'attelles des plus barbares. Évidemment, il n'a de tendresse à attendre ni de sa mère, la princesse Mary, de plus en plus distante, ni de Georges, qui ne songe qu'à faire de ses fils des marins. Ils vont d'ailleurs entrer tour à tour au collège d'Osborne, puis de Dartmouth, et c'est le bizutage, les brimades en tout genre qui sont monnaie courante dans ces collèges anglais et qui n'arrangent pas la situation du jeune Bertie. À 14 ans, il ne peut toujours pas articuler convenablement une phrase. Il est dernier de la classe et malgré son rang de prince, il est devenu le souffre-douleur de ses camarades qui l'ont surnommé « la sardine ». La seule chance de cet adolescent relégué, c'est son jeune médecin, Louis Craig, qui se prend de pitié pour lui et bientôt d'affection et qui va le soutenir comme il peut. Bertie lui en sait gré, Louis Craig sera son premier ami dans la vie, d'autres viendront plus tard et parmi ses amis il y aura évidemment l'orthophoniste Lionel Logg, révélé par ce film « Le discours d'un roi ». Les deux frères, David et Bertie, sont malades en même temps des oreillons. C'est une affection grave à l'époque et qui laissera des séquelles à David. Et puis ensuite, ils rentrent à Dartmouth. Et c'est au moment même où ils font leur rentrée au collège que meurt le roi Édouard VII. On est en 1910. C'est donc maintenant leur père, George, qui va régner sous le nom de George V. Du coup, David devient le prince de Galles. Et à ce moment, Bertie, qui à sa naissance n'était que quatrième dans l'ordre de succession au trône, est déjà devenu le deuxième. Cette nouvelle situation ne change pas son quotidien. Son père, je vous l'ai dit, veut en faire un marin. Il effectue des manœuvres en Méditerranée au milieu d'un groupe d'élèves officiers où les moqueries de l'adolescence font place à de la gêne, car le prince continue de manifester des troubles croissants, notamment dans son élocution. Pour limiter le protocole, à bord, on l'appelle « Mr. Johnson ». Pauvre Bertie, il a beau avoir un mal de mer insurmontable et bien des difficultés, il ne se plaint jamais. Il serre les dents, il s'efforce à toujours sourire et l'on dit sur le navire que le jeune prince n'ouvre la bouche que pour manger. Il a 19 ans quand survient la guerre, mais quelques jours après le début des combats, Bertie est terrassé par une crise d'appendicite aiguë. On le débarque en Écosse avant de l'envoyer à York's House pour sa convalescence et là il retrouve sa chère grand-mère, Alexandra, la seule toujours à avoir été tendre avec lui. Il doit assister à ce moment-là à la lente agonie de son tout jeune frère John qui mourra finalement plus tard en janvier 1919. Bertie est encore trop fragile pour reprendre le combat. Il est d'abord affecté à l'amirauté de Londres et ça, le roi George V l'accepte difficilement. Ça pousse le jeune prince à reprendre du service actif. En mai 1915, il prend part à un combat naval au Danemark, au large du Jutland. On a envie de dire « ouf, l'honneur des Hanovre est sauf ». Je dis les Hanovre, en fait, depuis quelque temps, ils se sont rebaptisés Windsor.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Introverti, embarrassé, le jeune Bertie souffre par ailleurs d'une très mauvaise santé. Il est bientôt opéré d'un ulcère qui, heureusement, a été diagnostiqué par son ami Louis Craig. Et c'est du reste cet ami médecin qui le pousse à se faire muter dans l'aviation, une aviation qui en est à ses tout débuts. Commence pour lui des mois heureux sur la base de Cranwell, où il partage le cottage du ménage Craig. Il passera son brevet de pilote après l'armistice en juillet 19. L'année suivante, après encore une année à l'université de Cambridge, je vous fais tout ça évidemment en résumé, Bertie reçoit du roi le titre de duc d'York. Il dispose désormais d'un écuyer attaché à sa personne, le jeune James Stuart, qui essaie tant bien que mal de l'amuser et, si j'ose dire, de le dessaler. C'est ce garçon de bonne famille qui va présenter au jeune prince sa voisine en Écosse, une certaine Elizabeth Bowes-Lyon. Le premier amour de Bertie, en vérité, c'était la fille de Lord Baring, Helen. Mais le roi s'est opposé à leur fiançailles. Or, quand il rencontre la petite Lady Bowes-Lyon, celle-ci sourit plutôt au bel écuyer qu'au jeune prince. Mais Elizabeth connaît la réputation de coureur de jupons de James Stuart et parallèlement, on peut dire qu'elle est touchée par la gaucherie, par la timidité du prince. Bertie, de son côté, est tombé carrément amoureux. Il demande sa main, en vain. Elizabeth apprécie Bertie, bien sûr, mais elle ne veut à aucun prix entrer dans la famille royale. Du reste, il n'est pas dans la tradition que les princes du sang épousent des sujettes britanniques. Seulement, il faut faire la part des circonstances. La guerre vient de se finir et il y a toujours un grand anti-germanisme en Angleterre qui rend difficile les alliances continentales. Les princesses catholiques sont à proscrire, les Russes ont été décimés. Bref, surmontant ces réticences, la reine Mary s'annonce elle-même au château de Glamis, qui est la résidence écossaise des Bowes-Lyon. Elle veut juger de la jeune Elizabeth, elle veut la voir et comprendre à qui elle a affaire. Or, cette jeune fille lui plaît. Elle a l'air de posséder à peu près toutes les qualités requises pour la fonction. Et dès lors, on va voir le jeune Bertie encouragé à repartir à l'assaut. Pour la deuxième fois, il fait sa demande. Et pour la deuxième fois, il est éconduit. Il faudra encore 18 mois au jeune prince, soutenu par la reine, sa mère, mais aussi par la mère d'Elisabeth. Il va lui falloir encore 18 mois pour attendrir et convaincre cette jeune fille indépendante, un peu ombrageuse, de lui céder. Et finalement, elle accepte quand même de l'épouser, touchée sans doute par la pureté de cœur de ce prince malheureux dans l'âme, mais toujours digne. Il faut savoir qu'au moment où elle accepte, le roi George V a eu ce mot qui n'est pas très gentil pour son fils, un mot à double entente. Il a dit « Je trouve que Bertie a bien de la chance ». Le mariage a finalement lieu le 26 avril 1923 en l'abbaye de Westminster. C'est une cérémonie relativement simple puisque le prince Albert n'est pas directement l'héritier du trône. D'emblée, la jeune mariée fait très forte impression par sa simplicité, par son caractère, par ce sourire naturel qu'elle arbore en permanence, ce sourire toujours très franc. Elle a l'air heureuse, Elisabeth. Quant au jeune marié, alors lui c'est bien simple, on ne l'avait jamais vu à ce point transporté d'allégresse. Son bonheur fait plaisir à voir. L'après-midi, le nouveau couple York quitte Buckingham dans un landau. Il reçoit une pluie de pétales de roses et s'en va vivre sa lune de miel dans le Surrey, puis en Écosse, chez la mariée. Il faut vous dire que les jeunes mariés bénéficient maintenant de leur propre maison. Ils s'installent à White Lodge et dès la première année de leur mariage, ils effectuent un voyage très remarqué à Belgrade où les retient une grande amitié avec Paul et Olga de Yougoslavie. La presse s'en donne à cœur joie, on les photographie sous toutes les coutures et bientôt c'est l'Europe entière qui s'entiche de la nouvelle princesse, de son sourire, de ses retards légendaires aussi. il n'en faut pas moins pour faire un peu oublier le handicap du prince. Et là, nous y voilà. En effet, en public, le prince est affligé d'un effroyable bégaiement, comme lors de ce discours au stade de Wembley pour l'inauguration de l'exposition de l'Empire britannique, qui se révèle une véritable catastrophe. Vous l'avez compris, et c'est le thème même du film, ce bégaiement est un problème terrible. Et ce problème, c'est Elisabeth elle-même qui va le prendre à bras le corps. Avec l'aide du désormais fameux Lionel Logue, elle va parvenir sinon à libérer son mari du bégaiement, du moins à rendre son défaut d'élocution moins choquant. Le film de Tom Hooper s'attarde avec bonheur sur la liberté d'esprit de la princesse, sur sa capacité à établir un lien entre cette famille royale affreusement coupée de tout et la société britannique du XXe siècle. On ne dira jamais assez tout ce que Bertie, avant même qu'il ne devienne roi d'Angleterre, tout ce qu'il doit à son épouse. Extrait de la bande originale du film Le discours d'un roi de Tom Hooper. Le 21 avril 1926, c'est la naissance du premier enfant du couple York, une petite fille qui se prénomme comme sa mère, Elisabeth. Elle est troisième sur la liste de succession au trône, en attendant, pense-t-on alors, la naissance d'un enfant du prince de Galles, ou même d'un petit frère qui automatiquement aurait sur elle la préséance. Eh bien en fait, ni l'un ni l'autre ne verront le jour, et c'est cette petite fille-là qui deviendra elle-même reine d'Angleterre, sous le nom bien sûr d'Elisabeth II. Lilibet, comme on l'appelle dans la famille, a pour parrain le roi George V et le vieux duc de Connaught, le frère du roi Édouard VII, et pour marraine ses deux grands-mères. Il faut savoir que dans la religion anglicane, on peut avoir comme ça plusieurs parrains et marraines. Ce qui est étonnant et qu'il faut souligner, c'est le côté soudainement affectueux de George V et de la reine Mary, qui, avec leurs propres enfants, s'étaient autrefois montrés si distants. Eh bien, les voilà maintenant qui se confondent en cajolerie pour leur petite fille Elisabeth. Et ils sont également très tendres avec sa petite sœur Margaret, qui va naître le 22 août 1930. On peut dire que les York sont heureux. Ils disposent d'un très beau cottage, Royal Lodge, dans le parc de Windsor. Or, le vieux roi, George V, est de plus en plus conscient des insuffisances de son fils aîné, David. Et il a tendance à reporter ses espoirs dynastiques sur le fidèle Bertie. C'est vrai qu'il bégaye, mais c'est un si gentil garçon. En 1935, pour le jubilé de George et Mary, qui célèbrent leurs 25 ans de règne, une foule immense se presse le long des avenues de Londres. La cérémonie religieuse tout à fait grandiose a lieu dans la cathédrale Saint-Paul, mais ce sont là les derniers feux du règne. Le vieux roi est bientôt atteint d'une mauvaise bronchite. On le voit périclité à vue d'œil. Les frasques de David avec celle que l'on appelle son américaine le désolent jusque dans son agonie et on l'entend murmurer, ce qui fait figure d'incroyable testament. Je cite le roi George V. « Je prie Dieu pour que mon fils aîné n'ait ni femme ni enfant et que rien ne se mette entre Bertie et Lilibet et le trône. » 20 janvier 1936, George V quitte ce monde. La couronne échoue sur le front de David, qui régnera sous le nom d'Édouard VIII. Oh, c'est une année difficile, c'est une année de crise qui s'ouvre pour la monarchie britannique, l'une des pires, assurément, de toute son histoire.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, plongez au cœur de l'histoire. Avec Franck Ferrand.
Alors je ne vais pas vous refaire ici l'histoire assez peu édifiante du reste du très court règne d'Édouard VIII. Le nouveau roi tient à épouser Wallis Simpson, cette américaine divorcée. Il l'impose dans des réceptions privées qui supplantent de plus en plus les obligations officielles et royales. Wallis est ostensiblement d'un autre monde. Elle méprise le frère du roi Bertie, qui désormais au passage est devenu l'héritier du trône. Et elle surnomme son épouse Cookie. Il est vrai qu'Elisabeth est un peu enveloppée et qu'elle arbore délibérément un look de mère de famille. Vous connaissez la froideur des rapports entre le nouveau roi et le gouvernement, un gouvernement qui s'effraie notamment, et à juste titre, des accointances du souverain avec le fascisme et le nazisme. Quant à Bertie, eh bien, Bertie est à la fois outré par l'indignité de son frère aîné, son incapacité à prendre la mesure des responsabilités qui lui incombent, et en même temps terrifié à l'idée de devoir lui succéder dans l'hypothèse chaque jour moins improbable où il viendrait à quitter le trône. Or, c'est bien connu, la peur n'évite pas le danger, et finalement, le 10 décembre 1936, le jeune roi finit par abdiquer. Bertie, Albert, le bègle introverti, à son corps défendant, devient donc roi d'Angleterre. Il va régner sous le nom de George VI. Alors j'ai sous les yeux un ouvrage que les éditions Plon viennent de publier, c'est co-signé par Peter Conradi et Mark Logue et intitulé comme le film « Le discours d'un roi ». Mark Logue n'est autre que le petit-fils de l'orthophoniste Lionel Logue, ce roturier australien et autodidacte qui devait aider un prince introverti à devenir un des plus grands rois de l'histoire récente de l'Angleterre. Ce livre est intéressant parce qu'il nous permet de mesurer à quel point le rôle de Lionel Logue a modifié la perception que les Anglais ont pu avoir de leur propre souverain. Les cérémonies du sacre de George VI ont lieu à la date prévue initialement pour celui d'Édouard VIII, c'est-à-dire le 12 mai 1937. Ça a été le triomphe de la radio à une époque où la télé n'existait pas. Les reporters notent du reste la présence de la reine douairière, la reine Mary. C'est la première fois dans l'histoire d'Angleterre qu'une ancienne reine assiste au couronnement du nouveau souverain. Elle est couverte de grosses perles aux côtés de sa fille et de ses deux petites filles, Elisabeth et Margaret, qui, elles, portent des petites couronnes d'or. La famille va pouvoir s'installer à Buckingham et multiplier les reportages dans la presse. Les journalistes sont particulièrement friands des facéties de Margaret, qui est une petite fille très espiègle. Il faut que je vous précise qu'au même moment, le duc de Windsor, lui, s'est marié à titre privé en France, au château de Candé, et que très peu de temps après, il est allé rendre une très regrettable visite à Hitler. C'est avec la mobilisation générale de septembre 1939 que le rôle de la nouvelle famille royale va devenir crucial. Et c'est le moment fort du film, évidemment. Au moment du Blitz, on presse la reine Elisabeth d'envoyer ses filles à l'abri au Canada. « Les enfants ne partiront pas sans moi, dit-elle, et moi je ne partirai pas sans le roi, et le roi ne partira jamais. » On connaît le rôle magnifique, extraordinaire du roi George VI et de son épouse pendant ces épreuves de la Deuxième Guerre mondiale. La reine, toujours à quatre épingles, va visiter les quartiers difficiles, les quartiers qui viennent d'être bombardés. On peut dire que la famille est très proche de ces sujets et l'on comprend qu'au moment de la victoire, en 1945, la liesse ait été grande pour acclamer cette famille royale, à commencer par la princesse Elisabeth qui a 19 ans et Margaret qui en a 15. En privé, l'ambiance au sein de la famille royale est perturbée par l'amour éperdu que l'aînée Elisabeth voue depuis quelques mois maintenant à son cousin Philippe de Grèce et de Danemark. Les deux jeunes gens se sont beaucoup plu tout de suite, c'est ce qu'on peut appeler un coup de foudre. Ils ont décidé de se marier, seulement le roi et la reine trouvent leur fille bien trop jeune et ils trouvent aussi, entre nous soit dit, le jeune prince un peu trop désargenté. Seulement là, Lilibet tient bon. Elle se crispe et elle finit au cours d'un voyage en Afrique du Sud par obtenir gain de cause. Finalement, les fiançailles d'Elisabeth et de Philippe sont annoncées pour le 10 juillet 1947. Le mariage aura lieu le 20 novembre de la même année. Ces réjouissances ne parviennent pas à masquer pour autant la fatigue du roi. Le roi George VI décline de jour en jour. Il est atteint d'un cancer des poumons et même si ça ne se sait pas encore partout, tout le monde peut constater qu'il est de plus en plus mal. Au moment de la naissance de son premier petit-fils, Charles, le 14 novembre 1948, le roi George VI est même alité et début 52, il est tellement mal, il a tellement de difficultés à suivre les cérémonies officielles qu'Elisabeth et Philippe vont devoir, au pied levé, au dernier moment, le remplacer dans un grand voyage qu'il avait prévu d'effectuer à travers tout le Commonwealth, jusqu'en Afrique et même jusqu'en Australie. Or, C'est pendant ce grand voyage que, le 6 février, la princesse Elisabeth apprend la mort de son père. Cette jeune fille, toujours très discrète, qui s'est toujours montrée parfaitement digne de sa fonction, avait été bien sûr préparée à succéder à George VI. Mais les choses se font beaucoup plus vite, de façon plus précipitée que ce qu'on aurait pu imaginer. La jeune femme vient tout juste de se marier. Elle est encore une toute jeune fille, enfin toute jeune femme, et voilà qu'elle est devenue, elle est propulsée par la mort de son père sur le trône d'Angleterre. C'est une princesse qui est partie pour ce grand voyage à travers le Commonwealth, et quand elle rentre, elle est Sa Gracieuse Majesté la Reine Elisabeth II. Elle n'est même plus libre de pleurer à sa guise. Les objectifs des photographes sont constamment braqués sur elle. Elle va devoir désormais incarner ce qui, à l'époque encore, et bien que l'Inde vient d'acquérir son indépendance, ce qui est encore l'Empire britannique. À 56 ans donc, le cher Bertie, le roi bègue au cœur pur, vient d'être emporté bien prématurément. Rien ne l'avait prédisposé à régner, et pendant toute l'époque où il n'était que le duc d'York, il avait fait, sinon tout à fait la honte de sa famille, du moins il avait suscité une certaine gêne dans les milieux de la cour d'Angleterre. On trouvait qu'il n'était pas très représentatif en public, et l'on avait constamment peur qu'il ait à prendre la parole et à manifester justement cette difficulté à s'exprimer. Mais eh bien en fait, grâce à Lionel Logg, grâce à l'amour de sa femme Elisabeth et de ses enfants, mais d'une façon plus générale, grâce à la force de caractère qui, au fond de lui, faisait de cet homme un personnage de grande trempe, on peut dire que Bertie, on peut dire qu'Albert, qui a régné sous ce nom de George VI, aura été un grand roi. C'est certes un règne court qui s'achève, un règne qui a duré en tout moins de 20 ans, mais c'est un règne fondateur pour l'histoire contemporaine du Royaume-Uni.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Le discours d'un roi, ou quand un film tire de l'ombre la figure oubliée d'un roi d'Angleterre. Avec ses invités, Franck Ferrand revient présent sur le règne, la personnalité, l'influence du roi George VI.
George VI, fils de roi, évidemment frère de roi, père de reine, et qui a été lui-même, bien entendu, souverain. Nous allons évoquer la personnalité attachante du père de l'actuelle souveraine Elisabeth II et tenter de cerner sa place dans l'histoire contemporaine. Et nous allons le faire en très bonne compagnie, n'est-ce pas, Julien?
Je constate que vous avez invité les meilleurs comme
oui,
toujours.
Oui, comme toujours.
Chantal de Batz, qui est journaliste et biographe de George VI. Bernard Cotteret est l'auteur d'une histoire de l'Angleterre qui fait référence. Quant à Bruno Kras, on ne le présente pas aux auditeurs d'Europe 1.
Bruno Kras est notre critique cinéma maison, et c'est avec lui que j'aimerais commencer d'aborder finalement ce film, Le discours d'un roi, qui a été un succès incroyable. Je pense que très peu de gens auraient misé sur un tel succès aux Oscars, aux Golden Globes et tout simplement dans le public, car ça a été un énorme succès commercial aussi.
C'était un très bon succès commercial dans le monde entier, puisque le film est à plus de 200 millions de dollars. C'est ce que fait un James Bond, donc n'attendez pas pour un film qui est un film d'auteur finalement.
On reste dans le même univers en même temps.
On reste dans le même univers, c'est vrai, univers british. Bon. Mais oui, ça a été très étonnant parce que, évidemment, sur le papier, le film paraît une gageure, parce que on se dit, l'histoire d'un orthophoniste qui essaie de soigner le handicap d'un roi, tout ça pendant quasiment 2 heures, non. A priori, ça n'est pas cinématographique.
Ce qui veut dire que ce film est d'abord une histoire d'amitié. Ça, je pense que c'est ce qui a d'ailleurs, en grande partie, occasionné ce succès.
C'est vrai, le grand talent de Tom Hooper, et c'est le talent d'un bon metteur en scène, c'est que pour faire du cinéma, il faut, et ça c'est une grille de lecture qui est radicale et imparable, avoir un point de vue.
Voilà.
Or, il part d'une petite histoire qui, traitée par quelqu'un d'autre, aurait pu être banale ou même ennuyeuse, et il en fait une histoire totalement universelle sur le courage, sur la volonté, sur le dépassement de soi, de sa propre faiblesse, sur la tolérance, ouverture d'esprit, parce que il y a aussi l'effort de ce roi qui va aller vers ce roturier qui lui demande quasiment de mettre un genou en terre.
Australien qui plus est.
australien en plus, qui lui demande de mettre un genou en terre, qui, comme font les bons psychologues, entre guillemets, le recadre et pose le cadre. Pas question que ce soit dans le palais, c'est chez moi. Et si vous n'êtes pas content, majesté ou pas, Bertie comme il l'appelle, c'est le même prix. Et finalement, c'est une leçon. Il y a aussi de l'amour, il y a aussi de l'amitié, il y a des conflits dans le film, donc c'est un film universel.
Et puis il y a la radio, ce qui pour nous est très important. On a l'impression que la radio est la toile de fond. Tout ce défi n'aurait pas pu exister 10 ans plus tôt, parce que la radio n'était pas encore généralisée, ni 10 ans plus tard, parce que le relais de la télévision étant là, évidemment la radio prenait moins d'importance. Il y a eu cette période étonnante, on va dire que ce sont les années 30, où la radio est le média dominant, et où les hommes de pouvoir sont obligés de faire avec. Et l'on voit peu à peu Lionel Logue, donc cet orthophoniste, aider le roi d'Angleterre, aider George VI à apprivoiser ce nouveau média.
Oui, et puis pour tout journaliste ou tout animateur, on sait que le direct est difficile.
Oui.
Or justement, vous parlez d'une période précise où il n'y avait pas de montage, il fallait être en direct ou pas du tout. Alors, la licence poétique, mais là les historiens corrigeront les quelques libertés qu'a pris Tom Hooper, c'est que tout est regroupé sur quelques mois et on a en effet l'impression d'un roi bègue qui débarque chez un orthophoniste après avoir essayé d'autres thérapies qui n'ont pas marché et qu'en quelques mois il va s'affronter puis comprendre le travail qu'il est en train de faire. Il y a une échéance puisqu'il va prononcer un discours et presque à l'arraché, il va se préparer, articuler et réussir à faire ce discours. Tout ça, c'est la licence poétique parce qu'on a l'impression que tout est fait en 6 mois.
Oui,
alors que j'imagine, mais je ne suis pas historien.
On a télescopé des périodes,
voilà.
Hein, ça c'est vrai.
On a télescopé.
Ouais.
Mais ça, c'est ça le cinéma. Je pense que si Tom Hooper avait voulu être trop réaliste ou si c'était un documentaire, ça aurait pas fait le film
bien
que
sûr,
c'est.
Bien sûr.
Et puis un film qui plaît à tout le monde.
Il y a quelque chose d'onirique dans tout ça. Évidemment, on rapproche des périodes qui, dans les faits, sont parfois espacées de 10 et même 11 ans. Et là, on a l'impression qu'effectivement, tout se passe en 3 semaines, quasiment. Hein.
Oui, puis alors, il y a quelque chose d'original aussi, c'est que, si je me fie à ma mémoire, il y a rarement eu un film qui montre un bégaiement de manière aussi dramatique. Jusqu'ici,
ouais,
le bégaiement était un élément comique au cinéma.
Ouais, oui.
Et c'est la première fois qu'on voit un bègue dont on ne se moque pas. Et ça devient presque une tragédie.
C'est une très grande empathie et qui passe notamment par le personnage de la reine Elisabeth, enfin celle qui va devenir la reine Elisabeth, qui est la duchesse d'York pendant les 2/3 du film, qui donc est l'épouse de Bertie, hein, du prince Albert qui deviendra le roi George VI, donc le père de l'actuelle Elisabeth II. Chantal de Batz, on peut dire que ces deux-là étaient inséparables. D'ailleurs, vous-même, vous avez écrit une biographie croisée des deux. Ce n'est pas le roi George VI d'un côté, la reine Elisabeth de l'autre, celle qu'on appelle la reine Elisabeth, c'est donc notre queen mum, hein, c'est la reine mère. C'est en fait le couple des deux, très inséparable, très uni.
Oui, ils se sont beaucoup aimés. Elle a hésité avant de l'épouser parce que.
Mais elle ne voulait pas entrer dans le système de la cour.
Elle était habituée à être très libre. Elle a eu une enfance merveilleuse, contrairement à lui. Et le jour où elle a décidé, donc, de l'épouser, elle s'est vraiment consacrée à lui et à ses filles d'une façon extraordinaire. Elle avait un caractère très fort. Elle était très, très équilibrée.
C'est elle, l'homme du ménage.
Oh, oui, est très, très, très équilibrée. et puis elle est toujours aimable, toujours souriante, mais très autoritaire. Quand elle voulait quelque chose, elle l'obtenait. Mais toujours avec charme, elle savait très très bien faire et elle l'a beaucoup aidé. C'est elle qui a commencé à l'aider avec ce problème de parole en public. Elle l'a toujours suivi parallèlement, elle s'est toujours. Et elle suivait certainement attentivement tous les jours le travail de récupération qui avait lieu. Et ça s'est arrangé comme vous disiez, pas en 6 mois. Il y a encore des traces où elle faisait répéter ses discours. Le grand voyage qu'ils ont fait en Afrique.
En 47-48.
Oui, sur le bateau, elle lui a quand même fait répéter les discours. Mais ça a marché.
Nous reprenons cet aller-retour entre la réalité et la fiction, entre le film et l'histoire, dans un instant.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
On s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 au parcours, à l'influence du roi George VI. Et Franck, vos invités pour en parler sont l'historien Bernard Cotteret, la journaliste Chantal de Batz et le critique cinéma d'Europe 1 Bruno Crasse.
Bruno Crasse qui donc a vu et revu ce film, nous l'avons tous vu plusieurs fois au gré des présentations diverses. D'ailleurs, on le voit toujours avec grand plaisir, faut dire.
C'est un
film qui se
revoit. Avec plaisir, absolument.
C'est plutôt bon signe, ça. Et dans ce film, j'ai envie de dire pour une fois, on a l'impression que l'histoire passe au second plan par rapport au scénario central. Comme si l'auteur, Tom Hooper, avait voulu raconter d'abord une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire personnelle en fait. C'est la personne du roi George VI qu'on aborde de très près.
Oui, et ça tient aussi à la très grande prestation de Colin Firth, qui a eu d'ailleurs l'Oscar du meilleur rôle, du meilleur acteur pour cette composition, parce que il fait de son personnage un personnage pour lequel on ne peut avoir qu'une grande empathie. Cette espèce de bégaiement par inhibition, disent les spécialistes, fait que c'est un véritable handicap. Je crois que si le film a autant de succès en France et dans le monde, c'est que beaucoup de gens qui souffrent d'un handicap, ça peut être un handicap grave ou simplement une angoisse personnelle, se retrouvent dans le personnage. C'est une histoire sur les faiblesses, sur ce qui peut nous empêcher d'avancer dans la vie, d'accomplir ce qu'on doit accomplir. Et d'ailleurs, Lionel Logue fait office aussi bien d'orthophoniste que de psychothérapeute et même de psychanalyste. On remarque que le roi lui confie beaucoup de choses sur son enfance et sur sa petite enfance. Et on expliquera ici, j'imagine, qu'il a pas mal souffert.
Voilà,
et que
on va bizarrement... voir d'où venait, Chantal Debasse, d'où venait cette espèce de difficulté à communiquer avec autrui. Il avait eu des parents difficiles, il faut dire.
Il a eu des parents difficiles.
Il faut préciser qui ils sont, ses parents.
Le roi George V et la reine Mary étaient des gens qui... n'étaient pas méchants, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais ils appartenaient pour le roi à une époque où les hommes ne s'occupaient pas des enfants, c'était absolument évident.
Ils s'occupaient de ses collections de timbres
et ils jouaient au polo et ils chassaient. Voilà. Ça l'intéressait beaucoup. Il attendait que les enfants grandissent pour s'en occuper. Et la reine Mary, chose très curieuse, elle aimait ses enfants, mais elle avait une sorte de répulsion pour les bébés. Elle s'en occupait absolument pas, elle les touchait pas, elle arrivait même pas à les prendre dans ses bras. Elle n'a jamais manifesté de tendresse à ses enfants alors qu'elle les aimait.
Comme l'avait fait la reine Victoria avant elle, du reste.
Hein, il y avait partie de tradition et une partie de caractère. La reine Mary était quand même, cette froideur était quand même terrible, alors que plus tard elle a été une grand-mère, absolument adorable et merveilleuse.
Est-ce qu'on peut dire, Bernard Cotteret, du point de vue de l'histoire de la Grande-Bretagne, que le règne de George VI et que cette époque, c'est une sorte de transition en quelque sorte. Du temps de George V et de la Queen Mary, si je puis dire, on est encore dans l'ancien empire britannique, on est encore à l'ancienne mode. Et puis, avec Elizabeth Bowes Lyon, qui donc va devenir la reine Elizabeth et le roi George VI, avec leurs deux filles, hein, Elizabeth et Margaret, que nous connaissons bien, on a l'impression qu'on entre dans la modernité, on peut dire ça.
Ce qui est extraordinaire, c'est effectivement l'évocation de l'empire qui est constante dans ce film. Et quand on sait qu'un film nous parle à la fois d'une certaine période à laquelle se déroule l'action et en même temps de l'époque à laquelle il est tourné, on s'aperçoit qu'il y a une part de nostalgie, j'allais dire, dans cette évocation de l'Empire, parce que quand on en parle en 2010, en 2011, évidemment, il s'agit d'une réalité qui est en grande partie une réalité du passé, mais pas totalement, il faut tout de suite corriger, parce que véritablement, ce qui soude cet Empire encore à l'heure actuelle, c'est la couronne. Et on a effectivement ici cette prise en charge directe par la personnalité du roi, d'une mission impériale et d'une mission, j'allais dire, universelle. Et ce qui m'a étonné personnellement, je me tourne vers les spécialistes du cinéma qui sont ici, ce qui m'a étonné personnellement, c'est le succès de ce film, non pas en Angleterre, non pas dans le Commonwealth, parce que, ou dans le monde anglophone en général, États-Unis y compris, parce que ça on s'y attendait, mais c'est la réussite de ce film extraordinaire dans un pays comme la France. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, oh là là, c'est terriblement British, est-ce que les gens qui sont là vont comprendre? Eh bien, ils ont tous compris, ce qui montre que la culture anglaise a su devenir d'une certaine façon universelle. Et je voudrais dire que ce qui est derrière, en arrière-plan de toutes ces scènes sur le roi, c'est un grand théâtre anglais qui est le théâtre élisabétain, qui est le théâtre de Shakespeare, dans lequel précisément les rois sont en permanence disloqués entre leur appartenance à l'humanité commune et puis leur mission forte,
finalement,
leur mission patriotique.
Vous nous dites ce qu'on a ici. C'est un film shakespearien.
C'est un film shakespearien et c'est pour ça que nous le regardons avec autant de plaisir.
Alors, d'un point de vue très historique, on a donc la description d'une période, et comme vous l'avez dit, c'est la couronne qui est au cœur, avec une crise quand même, une crise dynastique majeure. On a longuement, ici même, dans cette émission, évoqué, bien sûr, l'abdication du roi Édouard VIII, qui était le frère aîné, le David de la famille, le frère aîné de Bertie. C'est une abdication que l'on a longtemps imputée aux amours du roi à sa liaison avec une Américaine divorcée, Wallis Simpson. En réalité, ce roi Édouard VIII ne pouvait pas se maintenir sur le trône d'Angleterre. Il gênait tout le monde, à commencer par le gouvernement, Bernard Cottret.
Ben heureusement qu'il est parti. Il a eu le bon goût de partir. Il a eu le bon goût de partir à temps, si j'ose dire. Et vous savez, le premier voyage qu'il a accompli à ce moment-là, c'est dans l'Allemagne nazie, je crois qu'il faut, il faut le dire aussi. C'est là que j'ai envie de dire que ce film, si je voulais en donner une espèce d'explication un peu psychanalytique...
Oh mais oui, allez-y.
Je dirais que c'est un acte manqué. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit le roi sauver la mise, sauver le pays, sauver l'Empire, alors que la réalité est évidemment plus complexe et que derrière Georges VI, je veux dire, il y a tout un pays qui a été admirable pendant la guerre et qui a su résister au nazisme. Mais on a l'impression que le roi condense dans le fond tout ce qui va être l'attitude de résistance des Britanniques pendant la guerre.
C'est-à-dire qu'il le plie mais ne rompt pas. Il est à la fois très fragile dans l'apparence et notamment dans son élocution tellement difficile. Et à côté de ça, quel roc, quelle fermeté foncière appuyé sur une grande notion de la continuité. Ça, c'est quand même très british aussi, la continuité.
C'est terriblement britannique, comme ce mélange, effectivement, de fragilité et de force. Vous savez, c'est ce qu'on apprenait dans des écoles, des public schools d'Angleterre. On disait aux enfants, on le dit encore, il faut avoir du courage. Et l'expression qu'on utilise en anglais, c'est « stiff upper lip ». C'est-à-dire ne pleure pas, mon fils.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Un extrait de Pomp and Circumstance. J'ai essayé de mettre l'accent.
Ils nous agacent, les Anglais, mais on les aime bien.
C'est compliqué. Édouard Elgar sur Europe 1.
Quelle classe, tout ça. Et d'ailleurs, quand je dis quelle classe, c'est ce qu'on voit très clairement dans ce film de Tom Hooper. Cette famille, ce noyau-là, ce noyau familial. Le père, Albert, enfin Bertie. La mère, Elisabeth. Et les deux petites filles, Elisabeth et Margaret. Tout ça forme une espèce de famille dont on a l'impression qu'elle peut résister à n'importe quelle tempête. Chantal de Batz.
Bien sûr, parce qu'il y a deux influences. D'abord, l'influence de la reine, enfin d'Elisabeth, qui a eu une enfance merveilleuse.
Mère, donc, la mère, celle que nous appelons nous la reine-mère.
A eu une enfance absolument merveilleuse dans une famille où il y a eu 10 enfants, mais enfin 2 sont morts très jeunes, mais ils vivaient dans des propriétés aussi bien en Écosse que proche de Londres. Il y avait une vie extraordinaire, ils étaient très heureux, ils faisaient du jardiner, ils montaient à cheval, ils chassaient, c'était magnifique. Donc elle est arrivée, elle, à vouloir une famille comme la sienne, c'est-à-dire des gens qui s'aiment. Et lui était tellement traumatisé par le fait de pas avoir eu d'affection qu'il a fait que ses filles n'aient pas peur de lui, se comportent vraiment d'une façon très tendre. Et ça fait un bloc de 4 qu'ils appelaient nous 4.
Alors justement, Bernard Cottret, cette période de l'accession, de l'avènement de Georges VI a été vécu par cette petite famille dont nous parlons comme un véritable drame. C'est inouï parce que voilà un prince qui, a priori pas grand chose destiné à la couronne, qui se retrouve parce que son frère abdique volontairement, cas unique dans l'histoire d'Angleterre, il se retrouve sur le trône d'Angleterre et au lieu d'être heureux, si je puis dire, sa femme, ses enfants, tout le monde est effondré de ce redoutable honneur.
Il était duc d'York, c'est-à-dire qu'effectivement il venait après son frère aîné à la succession, pas par ordre, et je suis pas du tout sûr qu'il était enchanté au départ à cette perspective.
C'est le moins
compliqué. Ceci dit,
ouais.
il fallait bien assumer, et il a assumé, je crois, avec un courage extraordinaire, d'autant plus qu'il avait ce bégaiement, ce handicap physique qui était difficile et psychologique qui était difficile à vaincre. Et je crois que c'est tout à fait extraordinaire. Mais ce qu'il y a derrière aussi, et là les personnages sont un petit peu estompés dans le film. S'il y avait une critique à faire à ce film, ce serait celle-là. C'est qu'il y a quand même d'autres acteurs, en particulier il y a les acteurs politiques. Il y a un très grand acteur politique que l'on voit à peine dans le film.
C'est Churchill.
c'est Winston Churchill, qui quand même a été le plus vigilant à cette époque-là. Il y en a un autre, évidemment, on préfère ne pas le voir trop, qui est Neville Chamberlain, le premier ministre, l'homme au parapluie, l'homme de Munich. Et on sent, dans le fond, que ce film s'arrange pour tout centré sur la personne du roi, alors qu'évidemment,
c'était le but,
le roi règne, le roi gouverne, mais mais il n'est jamais seul.
Est-ce que cela, mis à part Bernard Cotteret, vous trouvez que le film est fidèle à ce qu'on peut savoir de l'histoire?
Ben, moi, je trouve que ce film est très bien fait et qu'effectivement, alors, on a condensé en quelques minutes pour nous, en quelques années pour le film, des scènes qui se déroulent dans la durée.
Évidemment. Bon.
Mais ceci dit, c'était absolument inévitable, autrement on ne fait pas de cinéma, et je pense que c'est tout à fait fidèle. La seule chose, effectivement, c'est que ça n'est pas non plus un film contre le tabac. On aurait pu pousser un peu les choses. Donc c'est suggéré, mais de façon discrète, parce que c'est quand même pas le centre même du film. Et je crois que l'héroïsation du roi ne devrait pas faire oublier quand même l'aspect collectif de cette épopée. Et en ce qui concerne Mrs. Simpson, personnellement, j'ai pas une sympathie débordante pour elle. Vous me pardonnez. Je sais qu'elle était courtisée à la même époque par Von Ribbentrop, qui était à Londres. Bon, je crois quand même qu'elle a un petit peu, laissé prise à certaines rumeurs.
Oui. Le film a donc une base historique incontestable. Ce qu'on peut dire, c'est que du point de vue des costumes, des décors, du protocole, tout ça
c'est
est
magnifique.
Impeccable. Les Anglais savent faire ce que nous ne savons en gros plus faire. Je ne citerai pas la dramatique en question, pour employer un terme un peu ancien, mais je viens de voir récemment un film qui vient d'être fait où l'on met Napoléon III en scène. Et une personnalité s'adressant à Napoléon III lui dit « Et vous, votre Altesse ?» Enfin bon, on est dans le n'importe quoi. Ouais, on se dit « Mais où sont... » Et les Anglais, eux, savent faire. C'est quand même assez magnifique, ça, Bruno Kras. D'où vient ce know-how, ce savoir-faire?
Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est vrai, puisque vous le mentionnez, que dans The Queen de Stephen Frears et dans Le discours d'un roi de Tom Hooper, les décors sont magnifiques. Et même s'il n'a pas pu tourner dans les lieux où se sont passés les faits, il a choisi des châteaux, des extérieurs qui sont très beaux. Il y a ce stade au début dans lequel il fait son premier discours où il bégaye en encore. Donc il y a un soin de reconstitution, costume, décor, qui est discret en plus, qui fait pas le côté la calèche qui passe dans le champ,
voilà,
pas
c'est
du
bien
tout,
fait, vraiment,
avec des figurants en crinoline, pas du tout. C'est bien fait, c'est sobrement fait, mais c'est juste.
Bravo à vous trois d'avoir éclairé notre lanterne sur ce film Le discours d'un roi de Tom Hooper. Je crois qu'il est temps d'accueillir Faustine Bollard. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Pour finir cette nouvelle semaine, on va parler pendant une heure du divorce et de son aspect extrêmement contagieux. Une étude américaine a démontré que chez les couples dont un proche a divorcé, la probabilité d'une séparation dans les deux années qui suivent augmente de 147%. Une donnée importante qui va nous permettre de chercher à comprendre s'il existe, oui ou non, une épidémie de séparation de couple. Alors venez nous dire comment vous avez vécu la rupture de vos proches. Est-ce que ce divorce vous a fait douter de votre propre union? La séparation a-t-elle traumatisé vos parents? Faustine.europe1.fr pour tous vos témoignages, Franck.
Merci Faustine. Et nous, à lundi, Julia, pour de nouvelles aventures.